sur France Inter.
Encore, à l'heure actuelle, nous n'en sommes qu'au balbutiement d'un renouveau de la pensée politique qui ne serait dépendant ni du léninisme, ni de la pensée libérale, deux branches en apparence opposées de la philosophie des Lumières, mais qui reposent au fond sur les mêmes prémices anthropocentriques. Les luttes indigènes contemporaines, autant contre les grands projets d'aménagement des gouvernements de la gauche développementaliste, que contre les politiques prédatrices des multinationales, indique une troisième voie suggestive en ce qu'elle renoue les liens longtemps distendus entre humains et non-humains quant aux formes de souveraineté qu'ils exercent chacun sur eux-mêmes. Philippe Descola, anthropologue, professeur de la chaire consacrée à la nature au Collège de France et auteur des Lanceurs de crépuscule de Par-delà la nature et la culture et de la composition des mondes, et ce soir notre invité pour parler de la politique autrement, mais comme chaque soir et particulièrement le lundi soir, nous allons commencer en musique par une fille que nous aimons beaucoup, c'est Fishback Feu.
Oh,
Philippe Descola, vous êtes parti de chez vous très tôt, très jeune, et vous avez commencé à parcourir le monde. Pourquoi et comment l'envie de voyager s'est-elle imposée à vous ?
Oh, c'est frotter sa cervelle à la cervelle des autres, comme disait Montaigne. Sortir de soi-même, ça suppose aussi de sortir de chez soi. Et sortir de soi-même, c'est important, à la fois pour prendre une distance vis-à-vis du monde dans lequel on vit, et dans lequel, je crois, comme beaucoup d'ethnologues, je ne me sentais pas véritablement à mon aise, et pour aussi apprendre d'autres manières de vivre la condition humaine, qui, par ricochet, peuvent exercer un effet sur la façon dont on va concevoir sa propre vie. Et je pense que les voyages bien conçus sont faits comme ça. Mais l'ethnologue, il fait plus que voyager, au fond. Ce dont vous parlez, c'est de voyages que je faisais quand j'avais 17 ou 18 ans, sac à dos, comme beaucoup de gens de ma génération.
Des beatniks.
Oui, si vous voulez, oui, des routards, des... ouais, mais on voyageait d'ailleurs d'une façon tout à fait extraordinaire, dont je me rends compte maintenant qu'elle était probablement liée à une situation coloniale qui n'était pas encore complètement décantée. C'était qu'au fond, par rapport à les endroits où j'ai été quand j'avais 17 ans, au Proche-Orient, en Iran, en Turquie, en Syrie, c'est des endroits qui sont inaccessibles maintenant pour beaucoup d'entre eux. Et probablement que les effets du colonialisme européen avaient instillé une sorte d'état d'esprit qui faisait que, au fond, les Européens étaient intouchables. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Je pensais que tout le monde était sympathique, hospitalier, et c'est vrai, c'était vrai dans bien des cas. Mais pour revenir à l'ethnologue, c'est quelqu'un qui reste. C'est quelqu'un qui reste parce qu'il doit faire l'apprentissage d'une autre façon de vivre. Et cette autre façon de vivre, on peut pas l'apprendre en quelques jours. Il faut passer par l'apprentissage d'une langue. Il faut passer par l'apprentissage même d'un façonnement du corps. Il faut apprendre à manger différemment. Il faut apprendre à dormir différemment, il faut être enveloppé dans une culture comme on s'enveloppe dans un manteau. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps, et ça requiert de l'humilité. Mais c'est une humilité qui est largement payée par précisément le détour que l'expérience ethnographique permet et le regard critique qu'elle vient aiguiser sur le monde d'où l'on vient soi-même. Et de ce point de vue-là, on ne revient jamais. On part, mais je crois qu'on ne revient jamais. Et les ethnologues sont toujours, même si c'est mon cas, je ne suis pas revenu sur le terrain où j'étais parti, en Amazonie, en Haute Amazonie. Je ne suis pas revenu depuis une dizaine d'années, mais ça n'empêche que j'y suis encore en partie, parce que certaines habitudes que j'ai prises là-bas demeurent. Et en particulier, peut-être une certaine habitude de frugalité, en tout cas une indifférence aux objets, et en tout cas même une inquiétude devant la prolifération des objets, qui m'a donné l'impression, quand je suis rentré du terrain, que la fameuse analyse de Marx sur le fétichisme de la marchandise, je la touchais du doigt. C'est-à-dire qu'au fond, les rapports entre les gens sont médiatisés par des objets matériels. Et après avoir vécu pendant plusieurs années dans une société où avec trois fois rien, littéralement trois fois rien, cette surabondance de biens matériels m'a complètement désorienté. Et encore à l'heure actuelle, je ne sais pas quoi en faire.
Vous étiez parti sur le terrain de très nombreuses années. Vous avez écrit un livre absolument remarquable qui s'intitule « Les lances du crépuscule, relation Givaros-Haute-Amazonie ». Et dans ce récit où le lecteur, la lectrice est imprégné à la fois de la nature, des relations humaines, de la solidarité entre les êtres de cette tribu qui s'appelle les Hachoirs, on a vraiment l'impression que il n'a pas été forcément facile de vous faire adopter.
C'était pas tellement difficile. Encore une fois, je pense que un peu d'humilité. Et puis là, j'ai très rapidement pris conscience, j'étais parti avec ma compagne, que nous étions en fait une source de distraction. Et c'est la raison pour laquelle nous étions volontiers acceptés dans les maisons. Alors, on rétribuait notre séjour par des procédés compliqués, parce qu'il fallait pas que c'est ait l'air d'une rétribution. C'est-à-dire que j'achetais des choses sans valeur avec du troc, parce que la monnaie n'existait pas, avec des paires de verres en particulier. Ce qui m'avait beaucoup étonné avant de partir sur le terrain, Claude Lévi-Strauss m'avait dit, semble-t-il, c'est toujours très efficace, des perles de verre. Lui-même en avait acheté lorsqu'il était parti chez les Bororo. Et en fait, oui, encore à l'heure actuelle, et c'est un conseil que je continue à donner à mes étudiants. Donc c'est un côté verroterie et colonial, mais en réalité, pour des raisons de circuits commerciaux, les perles de verre sont très difficiles d'accès en Amérique du Sud. Donc c'est une parenthèse. Et en fait, on était acceptés essentiellement parce qu'on était constamment sous le regard d'autrui, et pour des gens qui, à l'époque, avaient pratiquement aucun contact avec le monde extérieur, c'était une source de distraction permanente. En plus, un couple, donc c'était un travail d'observation, de psychologie pratique, comment un homme et une femme se comportent-ils l'un vis-à-vis de l'autre, parlant une langue évidemment qui leur était inintelligible. Et c'est, je crois, la raison principale pour laquelle nous avons été acceptés. Puis au bout d'un certain temps, au fond, on ne se pose plus de questions. Les gens disent, on est là, on est comme des meubles. C'est à ce moment-là que commence la situation ethnographique optimale. C'est quand on n'a plus besoin de poser de questions. On vit dans des grandes maisons communes, hein, et donc on est là, et puis on finit par être complète, encore une fois, accepté, faire partie du décor. Et à ce moment-là, on en apprend beaucoup, évidemment, sur les gens parmi lesquels on vit, pour autant que on progresse dans l'apprentissage de la langue, puisqu'il y a toujours évidemment cet aspect. C'est un peu comme une comparaison que j'emploie souvent vis-à-vis de mes étudiants. C'est comme une... Au début, on est comme un éthologue, parce qu'on observe des comportements sans comprendre ce que les gens disent, et puis petit à petit, comme dans un film en version originale sous-titrée, on commence à voir apparaître des bribes de sous-titres, qui donnent une idée sur ce qui se dit, jusqu'à que finalement on comprend tout. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la plus grande partie de ce qui se dit est d'une grande banalité, comme c'est le cas dans nos conversations habituelles à la maison.
Alors, or, ce soir, nous ne sommes pas dans un jour de grande banalité. Nous sommes le lendemain de l'élection présidentielle. J'ai lu tout à l'heure, en début d'émission, un court extrait de votre ouvrage qui paraît en livre de poche, La composition des mondes, Philippe Descola. Vous insistez beaucoup dans ce livre sur le renouveau du politique et la manière dont... Le fait d'avoir séjourné dans des sociétés loin de notre Occident, loin de la société néolibérale dans laquelle nous évoluons, vous a apporté beaucoup de pistes de réflexion. Comment avez-vous vécu la journée d'hier et comment vous sentez-vous ce soir ?
Ah, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que, comme beaucoup de Français... L'idée de voir le Front National au pouvoir en France était glaçant pour moi. Mais il est bien évident que ce qui s'est passé, pour réconfortant que ça puisse être, alors qu'on aurait pu envisager une situation bien plus une issue bien plus dramatique, et peut-être, comment dire, un pis-aller, c'est-à-dire au fond, le président élu, Emmanuel Macron, me rappelle un peu, je vous le disais tout à l'heure, Mendès France, c'est-à-dire il arrive dans une situation difficile où il faudra qu'il puisse faire une majorité, réformer profondément la France, mais à l'intérieur d'un cadre général qui ne pourra pas durer éternellement. Et ce qui me fait dire ça, c'est que, au fond, l'expérience ethnographique, justement, m'a montré que la philosophie politique, la philosophie des Lumières, à partir de Hobbes, disons, en Europe, a produit comme modèle de vie commune. C'est un modèle qui était d'abord très anthropocentrique, qui était fondée sur le fait que les humains étaient possesseurs d'eux-mêmes et qu'ils avaient donc la capacité de ce fait d'échanger entre eux, donc ils étaient des marchands, et qu'ils avaient la capacité aussi de s'approprier des choses et notamment des territoires. Et donc toute cette philosophie politique, elle est fondée sur l'individualisme. Or, ce qui frappe les anthropologues qui passent une partie de leur vie dans des sociétés non modernes, c'est que de tels systèmes n'ont pas cours. Et que, en particulier, le vaste mouvement d'épuration des non-humains auquel a procédé la philosophie des Lumières et l'avènement des démocraties, les moutons ou les ordinateurs n'ont pas le droit de vote dans les démocraties modernes. Donc c'est un par rapport à une cité beaucoup plus englobante qui était celle du Moyen-Âge et de la Renaissance, les démocraties modernes ont restreint en quelque sorte le champ de la souveraineté aux humains. Hein, ce sont donc des collectifs qu'on appelle des sociétés qui se donnent des conventions, qui adhèrent à des valeurs, et qui se trouvent bien embarrassés lorsqu'il s'agit, et comme c'est le cas de plus en plus en ce moment, d'avoir à traiter avec des non-humains, c'est-à-dire avec la nature, comme on disait jadis, avec l'environnement, avec des problèmes écologiques, avec le problème du réchauffement global, ou même avec le statut des animaux, des objets dans la vie quotidienne, des embryons, des maladies infectieuses, etc. Tout cet ensemble-là reste comme une sorte d'entourage de la vie sociale des humains à qui il faut trouver une place. Mais c'est très difficile de trouver une place parce qu'on a commencé par les éjecter de la cité. Or, c'est une chose que n'ont pas fait bien des peuples non modernes. On ne peut pas évidemment transposer telles quelles les solutions qu'ils ont adoptées, mais on peut s'inspirer de la façon dont ils conçoivent des rapports entre humains et entre humains et non humains pour essayer de profondément réformer les nôtres. Alors, vous citiez tout à l'heure un passage de ce livre, La composition des mondes, dans lequel, effectivement, je fais référence aux luttes contemporaines des populations autochtones, un peu partout sur la planète, et qui sont intéressantes aussi parce qu'elles montrent que ces luttes ne prennent pas du tout la forme que prennent les nôtres, si je puis dire. Il y a eu des manifestations dès aujourd'hui de protestations contre l'élection de Macron à propos de la réforme du Code du travail, etc. On voit très bien qu'au fond, les luttes dans le monde industriel et post-industriel, elles visent à renforcer les droits des humains. Dans des luttes qui se sont déroulés, par exemple, et qui continuent à se dérouler dans les Andes, entre des populations autochtones et des compagnies multinationales s'implantent pour créer des mines, et des mines d'ailleurs dans des conditions qui ne sont pas du tout celles où il ne s'agit pas de forer des trous dans une montagne, il s'agit de, comme aux États-Unis, ces grandes mines dans lesquelles on décape une montagne complète. Les protestations, eh bien, elles prennent évidemment en première approximation l'allure d'une, eh bien, de protestations habituelles, c'est-à-dire on ne veut pas la pollution, c'est la spoliation de nos terres, etc. Et puis, un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi ? Ben, c'est l'idée qu'au fond, le bassin versant, la source, la montagne, la rivière, qui est affectée par l'exploitation minière, bien sûr, ça cause des problèmes aux humains, mais ce sont aussi des êtres autonomes qui participent d'un collectif plus large, et tous les membres du collectif, humains comme non humains, ont une responsabilité pour que ce collectif se dépatouille de façon plus ou moins harmonieuse. Et lorsqu'un des éléments du collectif, que ce soit une rivière ou une source, où une montagne est affectée, eh bien c'est l'ensemble du collectif qui est affecté. Et donc on voit des relations de solidarité très originales dans le monde andin, par exemple, se développer, mais qui ont conduit, par exemple, Et c'est pour ça que tout espoir n'est pas perdu. Vous l'avez sans doute vu il n'y a pas très longtemps, le gouvernement de Nouvelle-Zélande donnait une personnalité juridique à une rivière. Or, en l'occurrence, évidemment, c'est pas une transposition immédiate. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que et la rivière et les populations maoris qui l'abordent sont conçus comme indissociables d'un milieu de vie, en quelque sorte. Il y a donc la rivière, la végétation des berges, les populations qui sont présentes sur ces berges, et qui constituent, en quelque sorte, un ensemble qui est source de droit, puisqu'on a bien parlé en termes de droit, tout à fait différent de la façon dont on pouvait concevoir avant l'appropriation d'un territoire. Et on peut multiplier les exemples de ce type-là qui font progressivement glisser, au fond, des conceptions individualistes de la souveraineté politique vers des conceptions qu'on pourrait appeler éco-centrées, si on veut, ou bio-centrées, c'est-à-dire dans lesquelles ce ne sont pas des droits des humains que l'on va étendre vers certaines espèces animales, comme on l'a vu proposer dans certains projets, parce que là encore, la dimension individualiste subsiste. Au fond, c'est parce qu'une espèce animale présente des caractéristiques qui ne sont pas trop éloignées de celles des humains en termes de sensibilité ou en termes cognitifs, etc., qu'on va proposer cette extension des droits humains, mais c'est toujours fondé sur le modèle de l'individualisme possessif. Alors que conférer des droits à des milieux de vie est intéressant parce que cela suppose que les êtres qui occupent ces milieux de vie peuvent être conçus, au fond, comme des extensions de ces milieux de vie et non pas comme leurs possesseurs. Autrement dit, dans un cas pareil, selon une formule classique, ce sont pas la nature n'appartient pas aux humains, ce sont les humains qui appartiennent à la nature. Même si les deux, cette terminologie n'a plus guère de sens.
Ah ben en tout cas, on est loin, effectivement, du discours de Macron hier soir, même si à plusieurs reprises il a parlé d'écologie. Vous êtes un des intellectuels qui dénonçait le plus l'impossibilité politique au sens de la représentativité et de la nécessité pour nous, les humains, de préserver les non-humains au niveau politique. De tout cela, nous allons continuer à parler. Votre expérience, Philippe Descola, nous fait réfléchir effectivement à nos modes de délibération qui sont très individualistes dans le milieu du politique. Ils nous font réfléchir aussi à la solidarité du collectif qui existe dans les sociétés non modernes dans lesquelles vous vivez depuis longtemps. Tout a commencé pour vous d'abord chez les Indiens du Chiapas et puis ensuite en Haute-Amazonie. Nous allons écouter un paysage sonore. Vous connaissez les paysages sonores ?
Oui.
Alors vous connaissez Bernie Krauss ?
Oui.
Eh bien, nous allons écouter, grâce à Bernie Krauss, un enregistrement qu'a pu faire... Comment vous le qualifieriez, ce Bernie Krauss ? Un anthropologue sonore ? Comment vous diriez ? Comment vous pourriez décrire le travail extraordinaire qu'il fait ?
Comment dire ? Oui, un anthropologue sonore, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il s'agit, on est là maintenant très loin de l'ethnomusicologie ou de ces choses-là. Il s'agit de, au fond, de capter des environnements et de les créer dans certains cas. Donc il y a toute un groupe d'anthropologues, notamment aux États-Unis, qui ont développé ces techniques. Et je me suis intéressé parce que j'ai fait un cours au Collège de France il y a des années sur le paysage, et je me suis intéressé au paysage sonore précisément.
Alors nous allons écouter le paysage sonore enregistré par Bernie Krauss. C'était en 1990 en Amazonie. La seule indication que nous ayons, c'est kilomètre 41 été. Arrivez-vous, Philippe Descola, à situer où nous sommes en Amazonie?
Non, je n'ai pas ce talent, mais c'est un environnement sonore qui me rappelle tout à fait le terrain. Je me souviens que quand j'enregistrais des chants, notamment ces chants qui jouent un rôle très important chez les Atchouars, qui sont en fait des chants qui sont chantés mentalement, mais qu'on peut verbaliser, et qui sont des incantations qui sont adressées à l'âme soit des humains, soit des non-humains. Et je faisais ça la nuit, et il y avait toujours cette stridulance derrière, qui quelquefois couvrait même, du fait de la médiocrité de mon système d'appareillage, qui couvrait même les chants. Et donc la combinaison des grenouilles, de l'orage qu'on sent gronder dans le lointain... vous savez, en Amazonie, je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres régions du monde, évidemment l'univers sonore est fondamental, mais il est tellement important qu'on ne chasse pas quand il pleut, parce que le bruit de l'eau frappant la végétation est tel qu'il empêche toute écoute fine de ce qui se passe autour de soi.
Alors, vous êtes l'auteur, Philippe Descola, de nouveaux concepts qui nous permettent de penser autrement les diversités du monde. Vous aviez publié il y a quelques années un livre très important qui s'intitule « Par-delà nature et culture ». Vous avez prononcé plusieurs fois depuis le début de cette émission ce terme que les auditeurs ne connaissent pas forcément. En tout cas, ils n'en connaissent pas forcément la signification profonde, ce terme de « non-humain ». Et il se trouve que au début de ce livre, Par-delà nature et culture, vous expliquez comment, dans quelles circonstances, vous avez compris l'évidence de l'importance de la nature. C'était au cours d'une de vos promenades dans l'aval d'une rivière limoneuse de la haute Amazonie. Quelqu'un que vous connaissiez dans le village où vous habitiez, une femme, s'est faite piquer par un serpent, et à partir de là, que s'est-il passé?
Ce que ça m'a appris, c'est surtout que la nature n'existe pas telle que je la connaissais. Moi, j'étais philosophe, et c'est un concept central pour un apprenti philosophe. La nature, on disserte à l'infini sur cette notion. Et je me trouvais dans cette maison, cette jeune femme avait été mordue par un serpent très dangereux, et fort heureusement j'avais un sérum lyophilisé, donc on lui avait fait une injection de sérum, mais son époux était bouleversé, c'était compréhensible, et il marmonnait assis, et donc je me suis approché de lui pour essayer de le réconforter, et lui dire que c'est vrai que dans la forêt c'est dangereux, qu'elle allait s'en tirer, mais que tout le monde va faire une sorte de cours d'écologie sur la chaîne trophique, sur la prédation, etc. Mais il me disait, non, mais tout ça c'est de ma faute, c'est parce que il avait acquis un fusil. Les fusils sont, à l'époque, étaient très rares dans cette région. C'est un fusil à baguette, ces fusils qu'on cherche par la gueule. Il avait tué des singes laineux, qui sont l'espèce probablement la plus commune de singes dans la région. Et il en avait tué beaucoup plus qu'il n'était nécessaire. Et il s'est dit, c'est une vengeance du maître des animaux. Parce que je n'ai pas respecté, alors il s'exprimait pas comme ça, mais c'est comme ça que je le traduis, une espèce de contrat tacite qui existe entre les humains et le maître des animaux, qu'on ne doit chasser que dans des limites raisonnables. Et alors j'ai poussé la conversation, il me dit oui, parce qu'ils sont comme nous au fond, les humains. Enfin, ils sont les animaux se voient comme des humains, ils se comportent quand on les voit pas comme des humains. Évidemment, lorsque on chasse de façon excessive, eh bien ils se vengent. Et c'est là évidemment que les distinctions que j'avais apprises à l'école entre la distinction entre la nature et la société, entre le monde des humains et le monde des non-humains, a volé en éclats et n'a cessé de se désagréger au fil des semaines et des mois, lorsque, par exemple, dans une autre circonstance, le matin, très tôt, une femme me disait On passe le matin, avant le lever du jour, dans la maison encore obscure auprès des feux, on discute des rêves de la nuit, parce que les rêves commandent ce que l'on va faire pendant la journée. Et certains de ces rêves étaient des rêves qui étaient soumis à une interprétation du type clé des songes, c'est-à-dire que si on rêvait que l'on voyait une troupe de guerriers, par exemple, ça voulait dire qu'on allait rencontrer une troupe de pécaries, hein, des cochons sauvages, etc. Donc des formes, des règles assez simples d'inversion, de choses comme ça. Puis il y avait d'autres rêves qui étaient très bizarres, dans lesquels des personnages apparaissaient pour délivrer un message. Ces personnages, c'était des plantes ou des animaux. Et donc une femme me disait, oui, cette nuit, il y a un plant de manioc qui est venu se plaindre à moi que j'étais en train d'essayer de l'empoisonner sous la forme d'une jeune fille. Et ce plant de manioc, c'était un plant de manioc, ou un ensemble de plants de manioc qu'elle avait planté trop près d'autres plantes qui servent à empoisonner pour la pêche, une forme de pêche dans laquelle on écrase des racines et il y a un suc qui vient modifier la tension superficielle de l'eau et ça étouffe les poissons. Ils n'ont plus accès à l'oxygène. Et c'est donc à cette occasion, en discutant avec cette femme, qu'elle me dit, oui, mais parce que au fond les plantes, elles sont comme nous aussi, ils se voient comme des humains, donc c'est normal que quand ils viennent nous visiter en rêve, ils se présentent selon la manière dont ils se voient. Et c'est toutes ces petites anecdotes en apparence sans importance qui viennent de ce que, comme je disais tout à l'heure, au fond, on fait partie des meubles et on parle avec les gens de la pluie et du beau temps. Ce sont toutes ces petites anecdotes qui, peu à peu, constituent un système du monde que l'on découvre et dont on s'aperçoit qu'aucun des outils, aucun des concepts que l'on avait embarqués avec soi dans sa musette conceptuelle ne peut servir, parce que ces concepts, ils ont été forgés par nous dans le cours d'une histoire très spécifique, qui est celle de l'émancipation de l'Europe, lorsque l'Europe a pris conscience de sa destinée historique, de façon réflexive, au cours des derniers siècles, dans des circonstances donc tout à fait singulières. Et ces concepts que nous utilisons d'ailleurs au jour le jour dans les sciences sociales, ils n'ont pas cours ailleurs. Et c'est pour ça que l'une des missions que je me suis fixé au fil des dernières années, c'est de réformer ces concepts de façon à ce que leur validité s'applique au-delà du champ historique où ils ont pris naissance. Et c'est pour cela aussi que l'anthropologie permet, au fond, ce phénomène de décentrement, mais qu'elle n'a pas complètement mené à son terme, et c'est pour ça que j'aspire à le mener en tout cas un peu plus loin.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Philippe Descola, Buena Vista Social Club.
Y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Sápate, maestro, ahí viene mi coro. Thank you.
sido dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Porque el campo es el Edén, más lindo del mundo entero.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapé el monte, cultive el llano, de todo el fruto de tu sudor.
Votre expérience, doublée de votre réflexion, Philippe Descola, nous permet de comprendre, notamment en lisant votre ouvrage sur les diversités du monde, que nous avons, d'ailleurs vous l'écrivez, une conception beaucoup trop traditionnelle de la politique. Vous pensez que notre vision de la politique est une vision aujourd'hui complètement dépassée. Vous dites que la politique... c'est devenu une affaire professionnelle et que finalement, en déléguant une partie de son libre arbitre pour constituer une souveraineté politique, eh bien, on se défait d'une partie de son autonomie. Comment réagissez-vous aujourd'hui, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron ? Faut-il changer de république ou faut-il réformer encore plus en profondeur cette notion même de politique ?
Il y a deux réponses que je peux faire à ça. La première, c'est je pense que les fondements d'un vivre ensemble doivent passer par des formes complètement distinctes de celles auxquelles nous sommes accoutumés depuis longtemps. Je parlais tout à l'heure de l'exemple que nous donnaient des populations autochtones en concevant des lieux de vie comme des sujets de droit. Il me semble que c'est une possibilité très intéressante à mettre en œuvre. Au fond, faire descendre l'expérience politique depuis des niveaux assez englobants, comme ceux auxquels nous sommes accoutumés depuis longtemps, qui sont ceux soit des États, soit des systèmes transnationaux, vers des assises territoriales plus réduites, au sein desquelles, précisément, humains et non-humains se verraient comme menant une vie étroitement conditionnée les uns par les autres. Et c'est une chose qui n'est pas impossible. Au fond, il existe des modèles de ce type-là, y compris en Europe. La Suisse, d'une certaine façon, avec la délégation de la souveraineté politique à des échelons, au fond, de petite taille, qui sont la commune ou le canton, peut constituer un exemple de ce type-là. Mais, et ça, je pense que c'est un exercice qui va prendre du temps, qui va sans doute se faire par la lutte, par des conflits.
Donc vider finalement notre représentant, qui est aujourd'hui le chef de l'État, de son côté monarchique.
Mais ça, c'est une affaire de très longue haleine, hein, je pense. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble de ces micro-territoires... Je suis très intéressé par le système des ZAD, par exemple, hein, les zones à défendre, qui représente une forme de coexistence au sein d'un lieu de vie qui est, me semble-t-il, assez original et qui diffère des mouvements de type Larzac, de lutte contre des grands projets de développement, parce que ce sont des gens qui décident de s'associer à des habitants qui eux-mêmes sont étroitement liés à un lieu de vie, à un paysage, à des animaux, à des plantes, à des façons de faire, qui reçoivent le soutien de gens qui eux-mêmes s'identifient à ce milieu de vie et qui décide de ce fait de former une communauté. Et donc c'est quelque chose de très original. Évidemment, le monde contemporain ne peut pas vivre exclusivement avec des communautés, avec des collectifs. Je préfère parler de collectif parce qu'un collectif, au fond, c'est une notion qui met bien en avant le fait que l'unité de vie, c'est une association entre des humains et des non-humains de toutes sortes. Et donc, qui ne précise pas quel est le mode de composition, en somme, d'un collectif.
Mais on peut voir qu'en France, ce genre de mouvement ne cesse d'augmenter et de se multiplier, oui. Et de devenir contagieux même.
Oui, en France et dans d'autres régions du monde. Mais pour revenir à la deuxième aspect, au fond, le politique, dans un livre qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, La Mésentente, Jacques Rancière dit une chose qui m'a paru toujours très profonde. Il dit la politique, c'est pas une affaire de rapport de pouvoir, parce que les rapports de pouvoir, il y en a partout. Il y en a dans la famille, il y en a sur les lieux de travail, il y en a n'importe quel endroit où sont réunis des humains et aussi des non-humains d'ailleurs. Il dit la politique, c'est une affaire de rapport de monde. C'est-à-dire, au fond, il s'agit d'ajuster dans certains espaces des mondes qui ne coexistaient pas auparavant. Et c'est ça, au fond, le plus difficile. Hein, c'est-à-dire de faire coexister, parce que au fond c'est déjà beaucoup si on arrive à coexister, des projets différents, sans que ça aboutisse nécessairement à des conflits. J'ai vécu quelques années dans une société où effectivement il n'y a pas de politique en ce sens-là, puisqu'il n'y a pas d'autorité. Les conflits se règlent exclusivement les armes à la main. Ce qui...
On risque d'être tué ?
On risque d'être tué tous les jours, oui, absolument.
Bah, on va peut-être pas prêcher ça pour notre Occident.
On va pas prêcher ça pour notre Occident, c'est-à-dire que, effectivement, j'avais le sentiment par moment de me trouver dans une sorte de société telle que Hobbes l'avait décrite à l'état de nature, la guerre de chacun contre chacun. Cela dit, le conflit n'était pas permanent. Et dans cette société, il n'y avait pas de dispositif, en quelque sorte, qui permettait l'ajustement.
Et il n'y avait pas forcément de chef.
Et il n'y avait pas du tout de chef. Pas du tout de chef. Chacun était son propre chef. Et donc, on voit bien le risque aussi qui existe dans des systèmes de ce type, qui peuvent fonctionner. J'y ai vécu avec plaisir pendant plusieurs années, en raison de la faible démographie. Quand ça change d'échelle démographique, on arrive à des systèmes de guerre civile généralisée, comme on en trouve dans certains pays du monde. Je pense évidemment à l'Afrique centrale, je pense à certaines régions du Proche-Orient, etc.
Mais par contre, Philippe Descola, dans tous les voyages que vous avez faits, les séjours très longs dans des populations non modernes, où vous avez vécu, vous avez observé les règles de fonctionnement de la société, on a l'impression, en vous lisant, que ce qui paraît absolument indispensable, et je reviens en ce jour particulier qui est le lendemain de l'élection présidentielle, c'est que la délibération collective semble une nécessité pour le vivre ensemble.
Oui, la palabre, disons, la palabre. Mais la palabre, elle a ceci de particulier, qu'elle elle est et on l'a souvent observé, y compris dans l'élection au cours de cette campagne électorale.
Vous avez trouvé que c'était vraiment de la palabre ou de l'affrontement?
Bon, ça dépend des moments. Ce qui compte, c'est la capacité qu'ont certains de maîtriser la parole de telle façon qu'ils arrivent à convaincre autrui. C'est donc l'art de la persuasion. Et c'est très dangereux. J'ai vu ça chez les Atchouars aussi. Les grands, s'il y a pas de chef, mais il y a des grands hommes. C'est des hommes qui ont un charisme, qui arrivent à constituer des factions autour d'eux, parce qu'ils ont un talent oratoire, ils ont une prestance, ils ont une présence, ils ont une capacité de convaincre les autres, de les attirer, de les séduire, de les attirer dans leur sphère de personnel, qui les rend plus aptes que d'autres, non pas à être des leaders, mais à constituer une faction, et donc à coaguler pendant un moment des familles éparpillées, si on peut dire.
Mais alors vous qui êtes un spécialiste, ben justement, vous qui êtes un spécialiste des Jivaro, comment vous avez perçu la mise en scène d'Emmanuel Macron hier soir? A-t-il voulu nous montrer par cette promenade solitaire avant d'arriver sur cette grande estrade derrière la pyramide de Peille, a-t-il voulu nous montrer que justement il imposait son charisme?
Il a tout simplement, il sait très bien que l'action politique, elle est fondée sur la manipulation des symboles. Et je pense qu'il l'a fait de façon tout à fait délibérée, en contraste avec François Hollande, qui était, disons, très modeste dans la manipulation des symboles.
Normal.
Normal, disons, voilà. Or, je pense qu'effectivement, une tradition de qu'on trouve, alors que les anthropologues étudient par exemple dans les royautés sacrées en Afrique ou dans d'autres régions du monde, une tradition d'exercice du pouvoir ou de la souveraineté passe par la manipulation de symboles, par le fait que effectivement le roi, le chef, le souverain, il n'est pas comme les autres. Et il n'est pas comme les autres, il doit le manifester de la façon la plus éclatante. Et il y a différentes façons de le manifester. Dans les royautés sacrées, le roi avait accès à toutes les femmes, il pouvait pratiquer l'inceste, il pouvait tuer à sa guise. Donc il ne se comportait pas comme les gens ordinaires. Et donc le symbolisme passe par toutes sortes de d'artifices de ce type, et l'artifice de la marche solitaire vers la pyramide, ben c'est un artifice parmi d'autres qui fort bien trouvé d'ailleurs, et qui je crois est indispensable à l'expression d'un pouvoir de ce type-là.
Dites-moi, dernière question, Philippe Descola, Emmanuel Macron vous a-t-il appelé au téléphone aujourd'hui pour être ministre du symbolique dans son prochain gouvernement?
Non, il ne m'a pas appelé. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a un an, et j'avais été frappé par et son extrême intelligence et sa culture, ce qui est toujours quelque chose qui surprend, parce que des expériences que j'ai eues par ailleurs d'autres hommes politiques, ces deux aspects-là ne m'avaient pas particulièrement frappé.
Ben merci infiniment, Philippe Descola. Je rappelle qu'en ces temps de post-présidentiel, il est urgent de lire pour comprendre la force de faire de la politique autrement, La composition des mondes, qui vient de sortir en livre de poche dans la collection Champs Essais de Philippe Descola. Et puis les autres livres, très beaux et très poétiques, de Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Les lances du crépuscule. Et on va se quitter avec votre second choix musical, parce qu'on l'aime tellement que ça va nous faire un très grand plaisir de le réécouter.
Steht ein Leiermann. starren Fingern dreht ihr, was ihr kann. Barfuß auf dem Eise wankt ihr hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann.
C'est avec ce voyage d'hiver de Schubert que nous allons nous quitter. Merci à Benjamin Riquet pour la réalisation, avec à la technique ce soir Arnaud Caillé, que je remercie aussi. Merci aussi à Élodie Royer, Perrine Malinche, Soufiane Kousma et Thierry Dupin pour la préparation de cette émission. Et évidemment, comme chaque soir de cette semaine, après les informations de 21h, vous avez rendez-vous avec notre Mishka national. J'espère que lui aussi sera ministre de la musique d'Emmanuel Macron. Non. Bonsoir Mishka, vous n'avez pas été appelé ce soir.
Non, écoutez, c'est dommage. J'ai mon téléphone, c'est peut-être pour
J'espère ça. J'espère qu'il écoute France Inter là en ce moment, ça va lui donner des idées, déjà deux idées.
Oui. Écoutez, vous avez des idées qui évidemment un peu intéressées, mais enfin bon. Non, mais
c'est... Ben en tout cas, on est bien content de continuer ce lundi avec vous. Et si j'ai bien compris, ça sera pendant toute la semaine avec les Kings.
Exactement, vous êtes très bien informé, Laure.